La glaneuse que je rencontre aujourd'hui est d'origine italienne. Loredana Bianconi est née en Belgique dans une famille de mineurs. De retour en Italie, elle fait la rencontre du féminisme et de la gauche radicale des années 70.
Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça.
Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
Nous étions à 23% de femmes.
Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique.
Ça, c'est du cinéma.
C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée.
On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde.
Mon père est venu ici en 1952 travailler dans les mines, naturellement. Ma maman est arrivée peu de temps après avec mon frère qui avait déjà 6 ans. Et moi, je suis née en 54, c'est-à-dire ma mère était ici depuis presque un an. Mais à 8 ans, je suis partie vivre en Italie avec mes grands-parents. Donc, à la fin, je suis restée jusqu'en 69. Et à l'université, j'ai fait lettres et philosophie à Bologne. Mais j'ai choisi le cours d'AMS, discipline des arts, musique et spectacle. Et première année d'université, je découvre le féminisme. Très, très important, parce que d'un coup, ça élargit tes horizons. Voilà, découvrir qu'on pouvait déployer les ailes et ne pas avoir la même vie de nos mères et essayer autre chose, éventuellement ne pas trop savoir quoi. Il y a une chose, je tiens à le dire, parce qu'on me le demande souvent, mais qu'est-ce que vous vouliez devenir? Et la question importante n'était pas ce que vous vouliez devenir, c'était dans quel monde on voulait vivre. Ça, le féminisme, les mouvements de ces temps-là, tout ce qui tournait autour de ces années. Ma grand-mère était une militante communiste, elle était dans le syndicat communiste, mais militante, ça veut dire qu'elle y allait vraiment. À l'époque, de temps en temps, j'avais un peu honte d'avoir une grand-mère comme ça, mais... il a fallu des années pour me rendre compte de tout ce qu'elle m'avait transmis. Le mot communisme, le mot politique, le mot militantisme n'était jamais utilisé, comme le mot bonheur, le beau, tout ça, ça n'existait pas. Ma grand-mère disait toujours l'importance et la trace qu'on laisse dans ce monde. Et donc ça a aussi beaucoup marqué, bien sûr, ma vie. Quoi. Et de ces années-là, il y a encore une ou deux choses qui m'ont beaucoup marquée, qui m'ont amenée à faire le film du Remember Revolution. Parce que j'étais dans le mouvement féministe, communisme. Je n'ai jamais été inscrite à aucun parti, ni les petits partis extra-parlementaires, comme on les appelait. Mais pendant une occupation de l'université, en 77, j'ai été arrêtée. Et j'ai fait un tout petit moment de prison. Mais... la violence de la... Moi, je n'étais absolument pas préparée à ça. Hein. J'étais même pas capable de lancer un pavé, si tu veux. Ça ne signifie pas que je ne justifiais pas ce qu'il le faisait. Mais ça a été quelque chose de très, très dur à vivre. Et quand je sors de là, il y avait une espèce d'envie de restauration dans l'université, dans le mouvement, parce que tu sais, arrestation sur arrestation, violence, enfin c'était, je parle de milliers de personnes, hein, c'était, l'air commençait à être un peu tendu. Ceux qui faisaient la lutte armée, haussaient le tir. Donc c'était vraiment des périodes où tu commences déjà à te demander, oula, quel est vraiment le monde dans lequel on vit et qu'est-ce qu'on peut faire pour... pas tellement pour changer quelque chose, parce que ça, on se le demandait déjà depuis le début des années 70, moi, en Italie, puis il y en avait qui avaient commencé un peu plus tôt. Et a commencé le retour à ce qu'on appelait le reflux de la vague. Beaucoup ont pris peur, il y a eu beaucoup de drogue. D'un coup, la drogue lourde a circulé, ils la mettaient sur l'héroïne, n'écoutait rien du tout, hein. Puis à ceux qui partent en Inde, puis à ceux qui vont à la campagne, essayer, voilà. On ne savait plus quoi faire de nos vies à ce moment-là. Et donc là, j'ai fait, avec celui qui était mon copain à l'époque, on a relevé un commerce Et j'ai travaillé pendant des années, on faisait de l'intérieur, tout ce qui était l'intérieur, design, tapisserie, moquette, rideaux, isolement, etc. Jamais j'avais en tout cas pensé je vais faire du cinéma, que ce soit bien clair, la fille d'un mineur, elle ne va pas faire du cinéma. Mais il m'était resté l'amour pour les films finalement, un peu le théâtre aussi, mais là j'avais autre chose, surtout le cinéma. J'avais fait ma thèse là-dessus. J'ai fait quand même, je suis partie à New York, m'inscrire à l'école de cinéma. Je parlais très peu l'anglais, je comprenais presque rien, donc je faisais des cours du soir. J'y croyais à moitié, non, même pas à moitié, j'y croyais pas du tout. Et j'ai quand même organisé quelques festivals de cinéma de femmes, de vidéo art. Et dans un festival, j'avais rencontré Jean-Paul Trefoy de l'RTBF, producteur de RTBF, et il y avait cette émission Vidéographie à Liège, et donc j'ai vraiment recommencé à mettre les pieds en Belgique parce que je venais voir des films, le rencontrer, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire mon premier film, La Mina ici, parce que c'est comme ça que les Italiens appelaient les mines. Et comme par hasard, parce que ça c'est pour moi quelque chose qui sera toujours très important, j'avais écrit ce scénario sur base des lettres que mon père ici en Belgique envoyait à ses parents en Italie. Et ma grand-mère me les avait gardées et elle me les avait consignées. Je les avais là depuis très longtemps parce que ma grand-mère est morte en 72. Il y en avait qui m'étaient adressées aussi vu que j'étais là-bas. Mais il y avait surtout toutes les lettres de 52 jusqu'à 69. Mon père était en vie. Et pour une question, je devais rester au lit, je ne pouvais pas bouger, je ne savais pas quoi faire. Donc, je reprends mes lettres et bon, je finis par écrire un scénario, toujours en y croyant et en n'y croyant pas. À tel point que c'est mon copain qui l'a envoyé à un petit festival de Bellaria du cinéma indépendant. Et un an après, alors que j'étais déjà en Belgique, et que j'étais prête à repartir en Italie, j'apprends que j'ai gagné le prix au scénario. Et puisque je connaissais Jean-Paul Trefoy de l'RTBF, parce que je le rencontrais dans les festivals, je le lui ai montré. Et il a dit, ah mais il n'y a rien de semblable ici. Et alors, la chose incroyable, c'est qu'il ne demande pas d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, etc. Il en parle au frère d'Ardenne, il en parle à Sibyl Ubacek-Ran de la ZDF, à Arte. Et ce film s'est fait en quelques mois. Alors que moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était une équipe de cinéma, alors que je pense que personne n'était préparé à ce... Mais quand même, il a été fait. Et comme par hasard, c'était déjà des lettres. Et pour moi, je pense que les lettres, comme la littérature, comme voilà, c'est quelque chose qui, depuis toujours, peut-être parce qu'enfant en Belgique, on s'écrivait avec les grands-parents, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Et donc, pour moi... les lettres, les films dans l'histoire du cinéma, ça me touche toujours énormément quand il y a les lettres, quand il y a les voix off, quand il y a voilà. Après, c'était avec De l'Italie qui descendrait les scores. Là, c'était un documentaire où j'allais interviewer, je le mets entre guillemets, parce que j'ai découvert que c'était surtout des conversations et je ne voyais pas pourquoi après il devait y avoir mes questions dans le film. Je suis vraiment arrivée là-dedans complètement innocente, si on veut bien. D'ailleurs, La Mina, d'un côté, ça a été une découverte magnifique, de l'autre, un cauchemar. J'allais tout le temps pleurer en cachette dans la salle de bain, parce que ça me dépassait, tout cela me dépassait. Donc, j'ai fait ce documentaire. Et puis, j'ai fait un long-métrage produit par Paradise Film. Personnellement, c'était une période très, très dure dans ma vie. Et ça, c'est encore autre chose qui fait que ça influence beaucoup le travail que j'ai fait. Et je m'étais dit, par exemple, je ne ferai plus jamais de fiction. Parce qu'on est dans un tel d'obligation, de temps, de tout, qui ne tient pas compte d'une réalité peut-être personnelle, etc. Mon père venait de mourir, enfin, il y avait vraiment plein de choses. Et c'était à nouveau de lui qu'il s'agissait, en plus que de ma mère, etc. Parce que le film, il traverse, ça s'appelle comme un air de retour, le déracinement, la mémoire, la migration, tellement... Mais d'ailleurs, je pense que d'une façon ou d'une autre, ça traverse tous mes films. à part peut-être « Do you remember Revolution » sur les femmes, avec les femmes qui ont fait la lutte armée en Italie dans les années 70. Mais sinon, celui dont tu parles, « La vie autrement », c'est parti en fait d'une commande. 40e anniversaire de l'émigration maghrébine, première fois où... théâtre, assemblée, enfin il y a plein de choses. Femme sociologue, universitaire, artiste, etc. Et c'était vraiment très très nombreuses. Donc l'idée c'était d'aller filmer les différentes interventions. Et voilà. Et il y avait aussi quelqu'un qui devait faire le son et enregistrer toute cette matière. Le son, ça s'est très mal passé. Au niveau de l'image, il y a eu aussi plein de problèmes. Je ne me souviens même plus, ce n'était pas nous qui le faisions, non. Morale, c'est les femmes qui organisaient, via une amie à moi, vu que je travaillais entre guillemets beaucoup avec l'immigration, me demande si je ne veux pas refilmer ces personnes. Donc, je les ai toutes rencontrées, on a fait le montage, et... Pendant qu'on travaille là-dessus, avec quatre d'entre elles, et je le savais déjà, c'était aller bien plus loin que l'histoire des questions. Si j'avais su, pas assez, hein, j'aurais pu aller plus loin. Mais voilà, l'idée c'était, on le fait pour les archives, seulement qu'au lieu de durer une demi-heure, ça c'était, d'un coup l'autorisation, d'un coup, la différence... des différentes migrations, d'où elles venaient, qu'est-ce que ça leur avait coûté de déployer leur aile, justement. Et moi, c'est le genre de situation qui me donne du courage, où on se sent plus seul. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai recontacté les dames. À ce moment-là, les dames n'étaient pas toutes là, il y en avait une ou deux. Et donc, je demandais... aux quatre dames, si je pouvais faire un petit documentaire juste avec elles. Bien sûr, donc voilà, ça s'est fait comme ça, la vie autrement. Et en fait, je ne les connaissais pas. Mais tu sais, quand il y a des mots qui résonnent, ce n'est plus que des mots, hein, c'est quelque chose qui d'un coup dans toi vibre avec une force, et je pense avec elles aussi. Parce que chaque fois, je leur disais, moi je viens de là. Et toi, d'où est-ce que tu viens ? Et je pense que c'est important de le faire tout le temps. Je l'ai fait avec les femmes de la lutte armée. On a toujours continué à me dire, mais comment tu... La confiance, combien de fois avec elles, etc. J'ai dit, pas longtemps, mais je leur disais, moi, j'ai fait une certaine partie du chemin. Puis vous, vous avez décidé de passer à la lutte armée. Donc d'aller underground, c'était pas du tout le genre de choix que j'aurais jamais imaginé faire, mais même politiquement. Mais je veux vous écouter parce que je veux comprendre.
Al carcere, j'ho pensato quando mi hanno preso, prima raramente. Invece ho pensato spesso di morire in azione, oppure per difendere qualcuno, oppure per un incidente, insomma, comunque cioè, la morte era presente, ma il carcere meno.
Alors, devenir, j'avais écrit un dossier sur une amie d'une cinquantaine d'années, peut-être moins à l'époque, qui cherchait du travail, possiblement un travail digne de ce nom, et qui n'en trouvait pas. Et en voyant qu'autour de nous, il y avait plusieurs femmes dans cette situation, on avait dit on va essayer. J'ai dit, vas-y, je vais écrire un dossier, on va voir si on se fait un documentaire. Voilà. Au documentaire, il a traîné des mois et des mois dans un tiroir de l'RTBF. Et puis un jour, je rencontre à la SCAM Michel Jacquard, qui me dit, alors quoi, tu n'avais pas un film? Je crois qu'il était président de la SCAM à ce moment-là, je ne me souviens plus. Et il a dit, ben moi, je vais bien essayer de le produire. Parce qu'il aimait les choses que j'avais fait, voilà. Il a trouvé quelqu'un qui m'a aidé à réécrire le dossier. Et puis rien, là non plus. Et ce qui a fait que la nécessité était là. Els Van Riel, je l'ai connu à ce moment-là, qui après a participé à pas mal de mes films, participé plus que ça, qui a vraiment aidé à ce que je les réalise. On a dit, bon, quand on a le temps, parce qu'il faut gagner sa vie, hein, donc quand on a, j'ai presque jamais gagné ma vie avec le cinéma. Hein. Donc, quand on a le temps, quand c'est possible, on va commencer via le WIP, je crois, donner une caméra. Michel Jacquard avait trouvé une caméra au WIP. Donc, on a commencé à faire du repérage, aller un peu ci, un peu là, en suivant un peu les traces du dossier. Puis, mon ami tombe malade. Et voilà. Et puis, il y avait cette chose bizarre, que c'était qu'à ce point-là, j'aurais dû reconstituer le bureau de chômage, reconstitué. Et il y avait quelque chose là qui ne me... Ouais, ça ne tournait pas rond pour moi. Donc, il fallait suggérer les choses. Et au lieu de les reconstituer. Et c'est ça qui a fait que ça m'a donné une liberté immense, finalement. Dans le sens que je voulais... ou passer les bateaux dans la rivière, et puis ben, on va filmer hein, le canal à Molenbeek ou à Anderlecht. Et tu peux rester là, attendre que le miracle se passe. Encore une fois, le miracle de quelqu'un qui est athée. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui arrive alors que tu veux filmer toute autre chose, qu'il se passe une petite chose que tu ne t'attends pas. Et ça, c'est pour moi, c'est la magie du documentaire. Et combien de fois on m'a dit, mais ça sert à quoi ce que tu filmes? Et j'ai dit, ben, je le saurai peut-être après. Et d'ailleurs, dans le film, il y a des images de repérage, il y a toutes sortes d'images, 3-4 caméras différentes, ça a été fait sur 2-3 ans aussi. Et puis finalement, je les ai montés tous, les plans. Donc, je crois que c'est découvrir la liberté de ne pas être dans un chemin tracé, et qui des fois te piège, et alors être prêt à recevoir ce qui arrive, c'est très difficile quand on a déjà des idées trop claires de ce qu'on veut. Ça ne me semble pas un film sur la nostalgie et le regret, ça ne voulait pas l'être, ni pour moi, ni pour mon ami, avec qui on a quand même chaque fois fait le rapport, ni pour les femmes autour de moi, c'était plutôt un état des lieux, mais comme on dit dans le film, vous n'allez pas nous avoir. Donc, il y en a une qui va en résistance d'un côté, une elle y va de l'autre, chacune dans son parcours. Mais ça veut dire, allez, on va tenir bon quand même. Vous n'allez pas nous avoir. Et ça, c'est... J'aime bien.
Quelle malédiction, devoir vivre sans pouvoir travailler. Après avoir fait un travail qui empêchait de vivre. L'angoisse du précariat éternel, l'inutilité du chômeur permanent.
Après Do You Remember Revolution sur les femmes de la lutte armée, je souligne qu'aucune télé ne m'a plus jamais produit. J'avais plus ou moins été avertie. jusqu'à Oltremare, donc l'avant-dernier film que j'ai fait sur les colons en Italie, en Afrique. Donc, ça a toujours été avec des tout petits budgets, hein. Ou presque rien. Voilà. De venir, il y avait un peu d'argent du ministère du Travail. Ils pensaient que c'était une promotion pour les formations des femmes un peu âgées, tu vois. Mais la délicieuse Marie Arena, qui était au travail à ce temps-là, elle avait mis un peu d'argent. Et donc, en Albanie, oui, je pense qu'il y avait quand même un budget, mais pas... Voilà. Et donc, c'était dans certaines contraintes et toutes les choses tournaient un peu mal. Souvent, découvrir aussi, voilà, je veux dire, par exemple, avec Rudy Martin et puis aussi après avec les deux derniers films que j'ai faits, la relation très, très importante avec qui tu travailles au montage, ça devient de la complicité. Il faut que la personne ressente un peu où tu veux aller, un peu, beaucoup de fois. Parce que moi, je peux être très têtue et très dictatrice. Je veux aller là. D'être un peu plus souple, c'est très important, sans céder d'où je veux aller, mais de comment y arriver, être un peu... Et ça crée beaucoup d'échanges, de discussions, d'échanges, et c'est très, très important. C'est vraiment très important. Et pour ça aussi, quelqu'un comme Rudy Martin, on a un film comme Devenir, il a... Attends, je suis arrivée avec 60-70 heures de matériel. C'était la vidéo, hein, petite vidéo. Il m'a dit, non, non, maintenant tu fais 10 heures et tu reviens avec ça, parce que là, de regard, il n'y en a pas. Hein. Donc, je reviens avec seulement 10 heures, seulement. Et puis là, arrivée quand même avec lui, au milieu de ces images absolument hétéroclites, à trouver une cohérence. Ça, c'est le mot... Ça aussi, je l'ai découvert en littérature, mais je pense que c'est ça, pour moi, le fond de quel film que ce, enfin, n'importe quel film, et pas seulement des films, la cohérence, et comment arriver à être cohérent avec ce qu'on veut raconter. Et puis, l'autre film important qui me vient en tête, c'est Oltremare. À nouveau, on est avec des lettres. À nouveau avec une histoire familiale. Et ça, cette fois, c'était l'être que je découvre. Enfin, il y a très, très peu. Quelques lettres, quelques photos. Là aussi, après un deuil, dans le sens que c'est ma mère qui est décédée. Il faut vider une maison avec tout ce que ça représente. 3 générations. Et là, je suis à nouveau avec des lettres. Avec un oncle qui, lui, est parti dans les colonies fascistes d'Afrique. C'est quoi encore cette histoire? Et j'y suis allée creuser.
J'ai décidé de partir. Pas pour fuir, mais pour trouver du travail, pour commencer une nouvelle vie, loin de Borgo. Un vieux camarade d'école m'a présenté à ceux qui peuvent me donner du travail. J'espère. Sinon, pour moi, ce serait la fin. Pardon, maman, pardon. J'ai un cœur. Et c'est pour moi une telle douleur de devoir partir qu'il semble se casser. Ayez foi en moi. Je reviendrai payer mes dettes et effacer la honte que je fais tomber sur toute la famille. Embrassez pour moi mon père, mon frère et mes sœurs. Adieu à tous et pardon.
Moi, j'ai besoin de contact avec les gens. Je peux être très, très solitaire dans l'écriture, etc. Mais après, j'ai besoin d'être... Tu vois, je fréquente tout le temps les restos sociaux, l'association, etc. Parce que moi, j'ai besoin d'être au milieu. J'aime les gens et leur histoire. Mais donc, il reste dans tout ça, il y a un moment, cette nécessité absolument impérieuse de dire, de raconter quelque chose, et de dire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, c'est... Parce que ce n'est pas toujours facile, même souvent c'est beaucoup de souffrance d'essayer de faire un documentaire, surtout avec des sujets pareils. Et quand tu n'as pas les moyens et que tu reçois de noms, au niveau même narcissique, c'est pas rien. Et voilà. Mais il ne faut pas oublier la jouissance qu'il y a là. À la fin, on a quand même réalisé quelque chose qu'on peut transmettre. Et chaque fois, je me dis, tu t'imagines qui vit? Enfin, tu t'imagines, je les vois, ils sont là, tous autour de moi. Ceux qui travaillent, s'épuisent, crèvent, travaillent. Et ils n'ont jamais rien dans les mains pour dire, j'ai fait ça, j'ai pas eu le temps, la vie ne me l'a pas permis, le système ne me l'a pas permis. C'est horrible de traverser la vie comme ça, quoi. Donc, on a aussi ce privilège-là, et tant qu'on peut se le donner, faut y aller.
Vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur vos applications de podcast.